Victor Hugo dans mon salon. Une nouvelle de Béatrice Crépeau-Binisti, de son recueil « C'est bon pour ton égo ». Lue par Chantal Bidet. 16 septembre. Je n'aime pas quand les gens débarquent à l'improviste. J'ignore comment Victor Hugo est entré chez moi. Pourtant, il est là. Gros bonhomme, barbu, front plissé, cheveux blancs, regard noyé sous des sourcils en bataille. Après ma journée de travail, je ne suis pas d'humeur à faire la causette. Je veux me coller devant la télé avec un plateau, mon chat sur les genoux et filer me coucher. Certains soirs, croiser un voisin devant la boîte aux lettres est au-dessus de mes forces. Comment Victor Hugo a-t-il pu entrer chez moi? Il n'a pas les clés. Je ferme les yeux. Je rêve peut-être. Je compte jusqu'à trois. Un, deux. Il est toujours là. Un livre sur les genoux, le nez penché sur mon exemplaire des Contemplations. Il finit par lever la tête. C'est bien lui, le même que celui de mes livres de classe, celui du documentaire d'hier soir que j'ai zappé au bout de 3 minutes, Victor Hugo himself. Barnaby est parti bouder sous la table basse. Ce soir, quelqu'un a pris sa place. Sale journée. Bronchite, sciatique, otite, migraine, 2 pneumonies et même une morsure d'araignée. À 21h et des brouettes, j'en avais plus que ma claque. Je n'ai pas envie de compagnie ce soir, pas plus que les autres soirs d'ailleurs. À part celle de mon Barnaby qui m'accueille en miaulant quand je rentre. Ça m'inquiète, je suis sûre d'avoir bien fermé la porte ce matin en partant. Monsieur Hugo, j'aimerais connaître la raison de cette visite pour le moins inattendue. Et surtout, comment êtes-vous entré chez moi? Le grand homme interrompt sa lecture, lève un sourcil, me regarde et dit en caressant sa barbe. Je suis entré par la porte, ma belle amie. Je n'ai plus l'âge de passer par les fenêtres. Il se fiche de moi, le génie. J'ai horreur que quelqu'un se paie ma tête, même si c'est un personnage aussi illustre que Victor Hugo. J'insiste. Quelqu'un vous a laissé entrer? La gardienne? Elle est la seule à posséder un double de mes clés. Il soupire et ses lèvres s'étirent en un demi-sourire. Si cela peut vous rassurer, ma chère, alors oui, je vous dirai que votre charmante gardienne a ouvert la porte à ma demande. Mais cela est-il vraiment important? N'êtes-vous pas heureuse et honorée de recevoir la visite de Victor Hugo? En face de moi se trouve un homme mort depuis 1885, très sûr de lui, persuadé que son atterrissage dans mon salon me rend folle de joie. Eh bien non, ça aurait été Zola ou Maupassant, passe encore. Oui, papoter avec Maupassant, pourquoi pas. Mais pas Hugo, non! Je l'ai lu dans ma jeunesse. Je l'ai même beaucoup aimé un temps et puis la vie m'en a éloigné. Son blabla romantique, ça ne passe plus. Je n'ai rien en commun avec un type qui se prend pour Dieu. Un nombril, ce bonhomme. Depuis mon divorce, je l'ai fui, les nombrils. J'en ai épousé un, il s'est heureusement barré. Et puis j'en vois suffisamment toute la journée au cabinet. Je les soigne et basta. Le reste du temps, hors de ma vue. De toute façon, je ne lis plus, ni Victor Hugo, ni aucun autre. Je consulte des revues médicales, ça oui. Je suis un médecin consciencieux, mais la fiction, non. Les romans que j'ai tellement aimés sont aujourd'hui rangés sur les étagères et n'en bougent plus. Il faudrait que je trouve le temps et le courage de vider ces bibliothèques inutiles. À quoi bon lire des fictions ? Dans la vraie vie, les drames et catastrophes ne s'arrêtent pas à la page 400. Pas de point final, n'est-ce pas? Il est vraiment temps que je me débarrasse de tous ces bouquins qui m'encombrent. Pendant que je réfléchis, aussi vite que me le permet mon cerveau à cette heure tardive, Victor Hugo est toujours planté en face de moi. Il me fixe avec une attention suspecte. Malgré mon agacement, je m'efforce de rester poli et élude la question de mes véritables sentiments sur cette visite nocturne. Le bonhomme attend visiblement quelque chose. Que je manifeste une émotion positive. Que je m'écroule de joie sur le tapis. Raté. Sa visite m'énerve. Je travaille, moi. Je suis fatigué. Pas envie de bavarder avec un type mort il y a plus de 100 ans. Le voilà qui se rassoit. Sans gêne. Je pourrais avoir un verre d'eau, demande-t-il. J'aimerais mieux un bon cognac, mais mon médecin m'a fortement déconseillé l'alcool. Ben voyons, les voyages dans le temps, ça donne soif. En revanche, il ne m'interdit pas de fumer, ajoute Victor Hugo en sortant une pipe de sa poche. Son médecin ne connaît pas le « fumez-tu », bien sûr. Agacé, je me racle la gorge et me précipite pour ouvrir la fenêtre. La pièce ne tarde pas à empester le tabac et moi je perds patience. Je ne voudrais pas paraître mal élevé, monsieur Hugo, mais j'ai eu une dure journée et j'ai faim. Je veux manger. Va donc au chouchi d'en face. Je me retiens de lui indiquer le chemin. De vieux restes de politesse dont je ne suis jamais parvenu à me défaire. Ça ne se fait pas de virer un vieil homme qui vous réclame à manger, qui s'appelle Victor Hugo ou Jean Dupont. Je me dirige vers la cuisine. Dans le frigo, des tranches de pain de mie, un reste de jambon, un bout de fromage. Sandwich pour tout le monde. Pendant que je prépare le repas, Victor Hugo m'observe, l'œil gourmand. Il dévore les sandwiches les uns après les autres, oubliant au passage de m'en laisser. De toute façon, je n'ai pas faim. Je vais maintenant y conduire mon improbable visiteur, remplir la gamelle de mon pauvre chat et aller me coucher. J'ai atteint le seuil de mon dévouement pour ce soir. Oust ! Je ne lui dis pas de cette façon, bien sûr. Je ne lui dis rien du tout. De retour dans le salon, il se met à fureter. Il prend un livre, le repose. Et puis un autre, et encore un autre. Pas de Chateaubriand dans cette bibliothèque ? Remarque-t-il. Ben non, pas de Chateaubriand, je n'aime pas. Un nombril de plus. Il y a du Victor Hugo, ça devrait vous satisfaire. Il commence à me chauffer, celui-là, avec son air mécontent. Vous n'aimez pas... Victor s'interrompt pour saisir un petit cadre sur l'étagère. Il l'examine avec attention. Non mais quel culot, vraiment! Est-ce que je fouille, moi, dans ces affaires? Le nez sur la photo, Victor Hugo finit par dire « Moi aussi, j'ai perdu ma fille chérie. » « C'est bon, la fille de Victor Hugo, on la connaît. On en parle depuis des siècles et on continuera à nous bassiner avec elle dans les siècles à venir. La mienne, tout le monde l'a oubliée. Pas un coup de fil aujourd'hui, pas un message, de personne, alors qu'on est le 16 septembre. Tu auras un autre enfant, c'est ce qu'on me disait. Comme si un enfant pouvait se remplacer aussi facilement qu'un pantalon usé. On ne me le dit plus. L'affaire est pliée pour tout le monde, on dirait. Béa, elle ne vit que pour son boulot, pas de mec, pas d'enfant, ni maintenant, ni jamais. Elle finira seule avec son chat et sa tristesse. Même le père a voulu l'oublier. Pour oublier complètement, il s'est fait la malle. Il ne s'est même pas fendu d'un mot cette année. Votre fille, monsieur Hugo, c'était une adulte. Elle s'est noyée, et c'est bien triste, mais vous avez eu le temps de la voir grandir. La mienne est partie tellement vite, à 3 ans et 10 jours. Aujourd'hui, elle en aurait 7. Pas eu le temps. J'ai pensé tout haut. Je me mords les lèvres. Trop tard. J'ai eu le cœur brisé quand ma Didine est morte, reprend Victor tout doucement. Alors là, c'est le pompon. Je crie, le mien est en réparation depuis des mois. Et celui de ma fille, personne n'a pu le réparer. Alors, ne venez pas m'emmerder, monsieur Hugo, avec votre tristesse. Laissez-moi ma colère, laissez-moi mon chagrin. Ils sont à moi. Et puis, vous êtes mort. Vous avez fini d'être triste, pas moi. Oui, je m'énerve après un mort. Je lui fais à manger, je lui fais l'honneur de mon canapé. Enfin, il se fait l'honneur tout seul. Je le laisse farfouiller dans ma bibliothèque et voilà qu'il entend me faire partager son vieux deuil, son très très vieux deuil. Visiblement, ma colère ne le perturbe pas un seul instant. Plus doucement, mais avec fermeté, je lui dis « Désolé, monsieur Hugo, il n'y a pas la place. J'ai déjà assez à faire avec ma propre peine. Et puis là, j'ai sommeil. Soyez sympa, rentrez chez vous. D'où que vous veniez, il faut y retourner. » Lorsque Didine a disparu, j'ai fui tout ce qui ressemblait à un livre. Je n'ai plus écrit une seule ligne pendant très longtemps. Il ne m'entend pas et continue à parler pour lui-même. Sourd, il l'est certainement, vu son très très grand âge. Ou alors l'idée que son histoire ne m'intéresse aucunement ne peut pas lui venir à l'esprit. Le front têtu, il poursuit son monologue. La photo toujours en main, il marmonne. J'ai été si épouvantablement malheureux que les livres me faisaient horreur. Comment imaginer que la littérature puisse compenser la perte de ma fille adorée? Alors là, je confirme, elle n'est d'aucun réconfort. Les livres, quelle blague! Lire, ne pas lire, se noyer dans le travail, rester au lit du matin au soir, fréquenter du monde, s'isoler du monde, rien ne marche. Je suis comme Victor Hugo, condamné au chagrin éternel. Finalement, même si tout nous sépare, on a des choses en commun, le grand écrivain et moi. Comme s'il lisait dans mes pensées, il murmure « Il n'y a pas d'âge légal pour le malheur, vous savez. » Avant d'ajouter, avec un petit sourire, ce n'est pas de moi, mais d'un autre génie, Chateaubriand. Voilà qu'il fait de l'humour. J'ai envie de rire et de pleurer. 4 ans aujourd'hui que ma fille est morte. Moi qui suis médecin, je ne suis même pas parvenu à guérir mon propre enfant. C'était le 16 septembre 2015. Tous les ans, je mets des bougies, je vais pleurer sur sa tombe, la recouvrir de fleurs. Cette année, je n'ai rien fait, à part travailler, comme une damnée, pour ne pas penser. Ça aurait pu marcher si Victor Hugo n'avait pas débarqué chez moi, histoire de me rappeler que, quoi que je fasse, c'est toujours là. Il est temps d'en finir. Mais vous voulez quoi, exactement? Me parler de votre fille décédée? Mais je suis au courant, vous savez. Les nouvelles vont vite depuis le 19e siècle. Il ne relève pas la plaisanterie. Je suis venu vous parler de ce qui console. Je n'aime pas ce ton solennel. Et puis d'abord, est-ce que j'ai envie d'être consolé? Ma vie telle qu'elle est, entre mon chat, mon travail, sans rien autour, ne me convient-elle pas tout compte fait? Pas d'amis, pas d'amants, pas d'enfants et surtout pas de livres. Plus d'histoires, plus de mensonges, plus d'illusions, rien que du vrai, du solide, des malades à soigner et des antibiotiques. Imperturbable, Victor poursuit. Après cette longue période d'affreuse disette où plus rien n'avait de sens, je me suis remis à lire et à écrire. Et alors quoi? Vous pensez que je vais écrire un roman avec mon histoire dont tout le monde se fout? Non, merci. Je n'aime pas les écrivains. Je ne risque pas d'en devenir un. Prends ça dans les dents. Aucune réaction. Il en a vu d'autres, le Victor. Il s'est tout de même pris la tête avec Napoléon III. Alors moi, petite joueuse. L'amertume, je connais bien, soupire-t-il. Et aussi le fait de rendre tout le monde responsable de son malheur. Croyez-moi. J'aurais tué ce maudit imbécile de Charles, qui lui a proposé cette fatale promenade en barque. Je l'aurais étranglé de mes propres mains s'il n'était pas mort avec ma Didine. Victor est soudain devenu tout rouge. Il se tamponne les tempes avec un large mouchoir. Je devrais avoir de la peine, après tout. Le pauvre vieux ne s'est jamais remis de ce drame atroce qui a bouleversé sa vie. Mais quelque chose en moi résiste. Au moment où le cœur de ma fille a cessé de battre, j'étais en train de lire. Oui, de lire. En train de chercher des mots qui consolent et dissipent le chagrin dans d'absurdes feuilles de papier. C'était peut-être bien un roman de Victor Hugo que j'avais dans les mains, ou un autre, je ne sais plus. Je n'étais pas à ses côtés pour entendre son dernier souffle, lui fermer les yeux. C'est une infirmière qui se trouvait près d'elle, qui m'a appelé. Quand tout était fini, je n'étais pas auprès de ma fille. J'étais tout bêtement en train de lire. J'aurais dû être dans la barque avec ma Léopoldine. J'aurais dû mourir à sa place. Elle était si jeune et moi j'étais déjà vieux. Je n'étais pas avec elle. J'étais ailleurs. Je n'ai appris sa mort que 4 jours plus tard, par les journaux. Il me regarde, les yeux humides. Allons, nous voilà sur le point de pleurer tous les deux. Non, je ne pleurerai pas. J'ai déjà versé trop de larmes. Mais ma colère s'est envolée. C'est encore possible de ressentir autre chose que de la rage. Lisez, lisez tant que vous pouvez. Les livres sont des amis, froids mais sûrs. Lisez pour vous consoler, lisez pour rêver, lisez surtout pour ne pas oublier. Et surtout lisez, parce que lorsque je vous parle de moi, je vous parle de vous.